Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Nous avons malheureusement été coupés, la ligne a été coupée avec Jean Dupuis, mais qui nous rappellera la semaine prochaine. Hein, et on devrait tout de suite recevoir un appel de Marianne Umbersold qui nous appelle de Calais. Et, allô Marianne ? Allô ? Allô, je ne t'entends pas.
Oui, tu m'entends ?
Oui, là je t'entends. Bonjour Marianne, comment vas-tu ?
Bonjour Yves, ça va. Toi ?
Voilà, bah ça va. Tu nous appelles de Calais et tu vas nous parler de trois choses, mais là, bon, un petit point sur ce qui se passe à Calais, peut-être en commençant par, par te présenter, par présenter le collectif Cabane.
La cabane juridique ?
Oui, la oui. Cabane, voilà.
Je m'appelle Marianne Aberceau, je suis la chef de mission et présidente de l'association La Cabane Juridique, en français Legal Shelter en anglais.
Ouais.
Nous sommes un collectif assez récent puisque nous avons ouvert un centre juridique sur le bidonville de Calais le 11 janvier 2016.
Ouais.
Et depuis, nous avons deux équipes qui travaillent tous les jours sur le bidonville à restaurer l'accès aux droits pour les migrants qui les voient largement bafoués. Donc il y a deux équipes. Il y a l'équipe asile, puisque c'est une thématique qui touche énormément de personnes sur le camp.
Ouais.
Et l'équipe violence, donc qui permet aux personnes victimes de violences, majoritairement de la part de la police française, de porter plainte et donc de faire valoir leurs droits.
Et justement, donc là, tu vas nous parler hein, de violences qui ont été subies et d'un article qui a été publié dans Le Monde avec une dépêche de l'AFP.
Oui. Alors, tout à fait. Il y a une dépêche de l'AFP qui est datée du 20 juin dernier,
ouais.
Qui fait état, qui s'appelle Jungle de Calais, heure sur la rocade portuaire entre migrants et policiers.
Ouais.
Qui fait état, donc, bon, on a un discours très policier, hein, et qui fait état, donc, d'un affrontement entre les forces de l'ordre et des réfugiés sur la rocade. Le problème, c'est que cette dépêche, journalistiquement, nous semble un peu problématique. Un, parce qu'elle n'interroge que les forces de la préfecture, les forces de police.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de contradictoire. Et deux, elle sous-entend, enfin elle dit d'ailleurs très clairement qu'il n'y a pas eu de blessés ni de la part des policiers, ni du côté policier, ni du côté migrant.
Ouais.
Bon, c'est suite à cette dépêche, hein, une autre dépêche chronologique cette fois-ci, qui mentionne que 9 CRS ont été blessés, qui rappelle à la fin
ouais.
qu'il n'y a eu de blessés ni du côté des policiers ni des migrants. Donc déjà là, on voit une petite contradiction.
Ouais.
Et là, effectivement, le problème principal, c'est que c'est pas vrai. Et je regrette un petit peu que le journaliste n'ait pas fait correctement son travail, puisque ce n'est pas vrai, parce qu'on a connaissance de pas mal de blessés, une dizaine.
Ouais.
Parmi des volontaires et des réfugiés.
Mmh.
Donc il y a des blessés, il y en a au moins 2 qui ont été transportés à l'hôpital de Calais.
Ouais.
Et d'autres qui se sont soignés sur le camp. Et notamment d'ailleurs les volontaires qui ont été blessés l'ont été lors d'une intervention. Ils sont allés sur la rocade pour soigner les gens,
ouais.
pour apporter les premiers secours aux personnes. Donc c'est voilà, ça nous paraît assez problématique de véhiculer simplement le discours de la préfecture qui est très très polarisé pour le moins.
Ouais ouais. Et qui est ce type de discours qu'on retrouve d'ailleurs qu'on retrouvait beaucoup sur Calais, qu'on retrouve toujours à Calais, mais qui a tendance à se répandre un petit peu partout sur le territoire national.
Exactement. De toute façon, c'est un discours qui illustre la politique nationale, qui est celle de stigmatiser les réfugiés dans leur ensemble et plus largement, si on sort des conventions de Genève, les migrants,
ouais.
les étrangers, puisqu'on voit qu'on essaye d'en faire un problème en érigeant donc une esthétique de la peur, une esthétique faite de barrières, de camps fermés gardés par des gardes avec des chiens. Avec un système de reconnaissance palmaire à l'entrée du camp construit par l'État, soi-disant pour protéger les gens. Et puis, qu'on voit déjà institutionnellement avec l'OFPRA qui est placé sous le ministère de l'Intérieur. Mmh. C'est déjà un bon indice. Même que l'État ne fait pas grand-chose pour protéger ces personnes qui, je le rappelle, sous les conventions de Genève, ont le droit à la protection de l'État au titre de l'asile lorsqu'ils sont menacés dans leur pays.
C'est bien le problème.
Exactement.
Voilà. Et sinon, donc, on va profiter, bien qu'on n'ait plus beaucoup de temps, il y a pas mal de mineurs, je crois, et donc dans le camp.
Oui, il y en a 544 selon le recensement fait par les associations, qui est, je le rappelle, le seul recensement qui peut produire sa méthodologie,
contrairement
à celui de la préfecture. Et ces mineurs, c'est la partie émergée de l'iceberg.
Ouais.
Les mineurs sont les plus vulnérables. Et sont ceux que nous appelons tous depuis des mois et des mois, voire des années, à l'État à mettre en place une réelle protection de l'enfance. Sauf que, l'action de l'État est pour le moins insatisfaisante, voire le centre juridique considère qu'il s'agit d'un abandon de l'État dans sa mission de protection des mineurs, dans sa mission de protection de l'enfance. Donc 544 mineurs isolés qui ont parfois de la famille en Angleterre. Il y en a plus de 300 qui ont de la famille en Angleterre. Donc c'est nous en suivons, nous, le centre juridique, on en suit 175.
Ouais.
Et leurs conditions s'aggravent de jour en jour et sont terribles. Le rapport d'ailleurs rendu par l'UNICEF récemment, il y a une semaine ou deux, est très parlant, parce que le titre du rapport, c'est mineurs sur la jungle de Calais, ni sains ni saufs, qui fait état donc de violences dans le mode de vie, dans les conditions de vie, mais également de violences au titre de la réduction en prostitution, de la traite des mineurs, de violences de la part des forces de police. Il y avait aussi le rapport du Refugee Data Project, Refugee Rights Data Project, qui faisait état que plus de trois quarts des mineurs présents sur la jungle avaient connu des violences physiques de la part de la police. C'est extrêmement grave. Nous, on a des cas, on suit des cas de mineurs qui ont été victimes d'enlèvements, de simulacres d'exécution et de tortures de la part de CRS français.
D'accord.
Donc, nous et les autres associations, on appelle l'État à réagir là-dessus et il ne fait toujours rien, et on reste dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette dépêche, mais qui est juste illustrative.
Qui est tout à fait illustrative, et c'est pour ça qu'on en a parlé. Et peut-être si tu peux nous dire un dernier mot très vite sur ce convoi qui devait partir, enfin qui est un très gros convoi humanitaire avec, je crois, plus de 250 véhicules qui devaient quitter l'Angleterre pour se rendre à Calais et qui a été arrêté à Douvres par la police française.
Exactement. Il y avait un convoi organisé par les Anglais sous l'égide de deux organisations, donc Carrefour Calais et l'Auberge des Migrants, via Help Refugee, qui amenait énormément d'aide humanitaire. Il y avait, je crois, 200 voitures qui devaient se rendre sur le camp et apporter donc cette aide humanitaire. Et ce convoi a été interdit par la préfecture déjà du côté français par la préfecture, et ensuite a été arrêté par les policiers anglais, côté anglais. Il n'a même pas pu passer le Channel.
Ouais.
Et donc là aussi, on observe de toute façon une corrélation avec ce qu'on voit, l'interdiction de la manifestation d'aujourd'hui à Paris. Il y a plusieurs interdictions, les placements. De toute façon, on est dans un état de durcissement d'une politique étatique extrême, où on rogne les libertés les plus fondamentales, notamment celle de manifester, d'apporter de l'aide humanitaire, sous couvert de terrorisme, de lutte antiterrorisme, de d'euros, puisque les forces de police sont mobilisées là pour la manifestation de Paris. L'excuse, c'était que les forces de police étaient mobilisées sur la prévention antiterroriste lors de l'euro et à Calais, et dans la contention de la crise migratoire.
Et d'ailleurs, je crois, la lettre écrite par les organisateurs du convoi, on dit bien que les raisons données pour refuser l'entrée du convoi, c'est l'état d'urgence, le hooliganisme lié au football et la menace d'une attaque terroriste.
Voilà, donc on a exactement la même argumentation.
Oui, c'est l'argumentation donc, qui a été donnée pour empêcher ce convoi de venir.
Exactement. Donc ça veut dire que, bon, si je parle en termes triviaux, on laisse les gens crever la bouche ouverte d'un côté, sous couvert de lutte antiterrorisme.
Surtout qu'il y a aucun rapport, ou si rapport il y a, c'est que les gens qui sont à Calais, en grande partie, sont des victimes du terrorisme, c'est pour ça qu'ils y sont là.
Ah oui, non, mais il n'y a absolument aucun rapport entre des prétendus terroristes qui menaceraient le territoire français et les personnes qui fuient la guerre, effectivement, et qui fuient des groupes extrémistes intégristes dans leur pays. Mais je rappelle qu'ils ne fuient pas uniquement des groupes intégristes et extrémistes, ils fuient aussi les politiques de nos États.
Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans Calais pour des... Parmi les gens qui sont à Calais, il y a beaucoup de gens qui fuient des situations liées au terrorisme. Donc là, on ne va pas faire une émission trop géopolitique, mais qui est tout à fait liée aux politiques de nos États.
Bah exactement, le soutien aux talibans dans un premier temps, puis la vente par l'Union européenne du retrait des forces internationales d'Afghanistan contre des concessions minières, qui a pour effet de donner le pays aux mains des talibans. Il y a pour effet donc du coup aussi une recrudescence, l'alliance, les luttes intestines entre les différents groupes extrémistes, talibans, Daesh, Ekmatiol, enfin si je prends que l'exemple de l'Afghanistan, mais et donc nos pays aussi politiquement ne peuvent pas reconnaître les ressortissants de ces pays-là comme ressortissants de pays en guerre, puisque sinon Ça ne pourrait pas justifier leur politique de retirer les forces internationales. Et donc là, on voit qu'il y a toute une tendance d'empêcher les gens d'avoir accès à l'asile.
Oui, absolument. Alors, ce que je te propose, Marianne, c'est qu'on refasse peut-être une émission un peu plus longue à propos de Calais, soit l'occasion d'un de tes passages à Paris, parce que je crois que ça t'arrive de venir de temps en temps.
Mm-hmm.
Ou alors par téléphone, si tu as une chose à rajouter, si tu peux, en une minute, parce qu'après, on a justement, on doit passer, il y a eu il y a quelques temps une réunion de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers qui était consacrée aux violences policières, et on devrait écouter donc et à la sortie du rapport de la CAT, et on devrait écouter Aline Dallière qui est un des auteurs de ce rapport et donc qui a été enregistré à ce moment-là.
Mais très bien, ce rapport justement met en évidence ce tournant policier de l'État français et que nous avons mis en exergue dès le 12 février quand on avait fait notre conférence de presse sur les violences policières et civiles. Ensuite, effectivement, ça s'est disséminé et on observe ce durcissement et en parallèle donc une rhétorique inverse qui va créer une cellule des bavures pour individualiser, pour comme se dédouaner en disant que ce sont des faits individuels à la marge.
Voilà.
Alors qu'on observe bien des techniques de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre ou de violence, hein, simplement, tirées des techniques, c'est des techniques nouvelles tirées des techniques anglaises. Donc voilà. Il y a un échange entre les techniques et on peut systémiquement le mettre en évidence. Donc voilà.
Eh ben écoute, je te propose si tu peux rester à notre écoute hein, sur www.rfpp.net parce que je crois que sur 36.3 à Calais ça passera pas. Et puis on va tout de suite retrouver donc Aline Dallière qui a été enregistrée. C'était le 9 mai je crois à la réunion de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers.
D'accord, bah merci beaucoup.
Voilà, et ben merci beaucoup Marianne, et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était donc Marianne qui nous appelait en direct depuis Calais. Et maintenant nous allons écouter Aline Dallière. Hein, ça a été donc enregistré lors c'était la réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, hein, qui était du 9 mai, qui était consacrée à la situation des personnes étrangères exposées aux violences policières. Et c'était, je viens de le dire, à l'occasion de la publication en mars 2016 du rapport de la CAT intitulé L'ordre et la force, enquête sur l'usage de la force par les représentants de la loi en France. Donc tout de suite, Aline Dallière.